Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service. Oui, il est 9h, on est le 24 janvier. Place sur tout ce que vous voudrez comme précipitation. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Kiroak.
Bonjour, les pieds bien au chaud.
Les pieds bien au chaud, oui. Et Yvan Deslauriers.
La tête en... Tout récemment séché.
Oui, et presque. Oui, et Maurice Bolduc, qui est en régie.
Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Maurice. Chers collaborateurs, qu'est-ce que vous nous présentez en première partie d'émission?
En première partie, ce n'est pas à cause de la température, mais je vais vous parler de commotion cérébrale.
Ah oui?
Et des avancées de la science. Oui, j'ai pigé un peu dans vos talles, mesdames. Alors, des avancées de la science sur la connaissance et le... Comment faire avec les commotions cérébrales, dans le premier cas. Dans le deuxième cas, là, il va falloir faire un petit travail d'imagination pour aujourd'hui. Je suis allé dans la table de Marie et...
un petit peu de musique pour t'accompagner.
Et on va regarder l'hiver avec des enfants.
Ah oui, ça c'est intéressant, parce que c'est l'hiver, malgré tout ce qui nous passe au-dessus de la tête. Monique?
Oui, alors, est-ce qu'il y a vraiment plus de personnes qui sont allergiques?
C'est une bonne question.
Oh, moi, je pense que oui.
Si oui, eh bien, pourquoi?
Oui, alors deux bonnes questions.
Ça, c'est une excellente question.
Ah, ce sera...
Avec des éléments de réponse.
Sujet, bien sûr, scientifique, bien sûr. Et je suis contente que ça soit contagieux.
Bon.
Parce que j'aurais... Oui, non, mais... pas l'allergie, mais l'intérêt aux recherches scientifiques.
Moi aussi, je joue dans vos talles en première partie d'émission.
Ça.
Oui, c'est ça. De mon
J'étais
côté,
charmée, moi.
Oui, hein, je vous parle d'une recherche... D'abord, où on associe les habiletés motrices et les fonctions cognitives chez les enfants. Okay. Alors voilà, c'est pour la première partie. C'est parti. Yvan, éventuellement... Oui. On va parler de commotion cérébrale. Voilà, on a retrouvé le texte.
Oui.
Tout est beau.
Alors, c'est dans Québec Science.
Oui. Janvier, février, non, pas janvier, décembre.
Décembre.
Décembre 2018.
Oui, il y a quelqu'un autour de la table qui m'a glissé cette revue-là.
Quelqu'un.
Quelqu'un avec qui je ne vis pas. Hein. Fait que ça limite
c'est
à
facile,
peu près le champ
illumine,
des recherches.
Oui.
Hein. Sous la plume de Maxime Bilodeau, qui écrit dans Vélomag très souvent.
Oui, aussi, oui, c'est vrai.
Alors, qui nous parle de commotion cérébrale, la science progresse. Est-ce que vous saviez que le Québec est le premier endroit au monde à s'être doté d'un protocole de gestion des commotions cérébrales? C'est dire comme le sujet s'est élevé au rang des préoccupations collectives au cours des dernières années. Publié en 2017, le document gouvernemental d'une douzaine de pages détaille la marche à suivre en cas de traumatisme crânio-cérébral léger, le TCL. Il semble que commotion cérébrale, ça aurait fait de la job. Enfin.
Mais c'est scientifique.
Ah oui, c'est pour ça que je ne suis pas encore habitué. J'essaie de m'adapter. Malgré tout, les commotions cérébrales sont encore très fréquentes. Selon un expert en traumatologie, jusqu'à une commotion cérébrale sur deux, donc 50%, n'est jamais détectée. Les joueurs de soccer, puis là, c'est un sport qui est de plus en plus qui est de plus en plus pratiqué ici. Les joueurs de soccer sont tout particulièrement à risque. Paradoxal pour un sport qui, en principe, n'implique pas de contact. Quoi qu'on peut, en douter.
Mais ils tombent, puis ils ont l'air
de bien souffrir. Ils tombent, ça a l'air de faire bien mal.
Oui, oui.
C'est un des rares sports dans lequel on utilise activement sa tête. On donne des coups de tête au ballon, hein. Or, ces impacts répétés causent des micro-déchirures au cerveau qui, à long terme, peuvent provoquer des symptômes de commotion cérébrale, comme les maux de tête ou les pertes de mémoire. Le risque réel auquel sont exposés les as du ballon rond n'a toutefois jamais été calculé. La raison, c'est que l'équipement pour mesurer la force qui s'applique sur le cerveau, c'est tout avec des fils. Alors, c'est difficile dans un match de soccer. Mais on a trouvé un espèce de bandeau qui est constitué d'un gyroscope et de deux accéléromètres qui a le mérite de se faire facilement oublier sur une photo que j'ai vue. C'est vrai, ça a l'air tout simplement d'un tout petit bandeau. Mm-hmm. Alors, on a demandé à 8 joueurs et 16 joueuses de bon niveau, âgés entre 18 et 24 ans, d'enfiler ce petit bijou technologique afin de s'affronter dans des matchs de compétition. Les accélérations de la tête des participants ont été enregistrées tout au long de leur passe d'armes qui étaient elles-mêmes captées par l'œil attentif d'une caméra. Nous nous attendions, on parle des chercheurs, nous nous attendions à ce que les mouvements de rotation, comme une redirection du ballon, le ballon s'en vient puis avec un coup de tête on l'envoie dans une autre direction, soient plus dangereux puisqu'ils provoquent un cisaillement entre les matières blanches et grises du cerveau. Mm-hmm. Leurs doutes ont été confirmés. Tant chez les hommes que chez les femmes, les techniques de tête, et tout particulièrement celles où s'effectue un mouvement de rotation, ont entraîné des accélérations potentiellement dommageables. Les impacts involontaires comme la collision entre deux joueurs étaient aussi synonymes de risque, mais beaucoup moins fréquents. Là, on regarde le traitement maintenant. Une fois la détection des commotions cérébrales facilitée, encore faut-il proposer un traitement adéquat. Et là, c'est un monsieur Philip Fate qui est professeur au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières et fondateur de la clinique Cortex, qui se spécialise dans la prise en charge du TCL. Vous vous souvenez ce que ça veut dire? Ça veut dire commotion cérébrale.
Traumatisme.
Oui, c'est ça. C'est la première clinique du genre à avoir ouvert ses portes au Québec. Ses recherches portent entre autres sur les pertes de capacités fonctionnelles qui découlent des commotions cérébrales. Dans le cadre d'une étude parue en 2014 dans le journal of Neurotrauma, il a par exemple demandé à 13 jeunes âgés de 9 à 15 ans aux prises avec des séquelles de commotion cérébrale d'accomplir deux tâches simultanément. La première sollicitait la mémoire, alors que la seconde, qui consistait à appuyer sur des boutons à un certain rythme, faisait appel aux capacités motrices fines. Au final, les jeunes athlètes éprouvaient davantage de difficultés que leurs coéquipiers non blessés à réaliser cette double tâche. Mm-hmm. Donc, le multifonction, mm-hmm. quand on a des problèmes à la tête, ça devient beaucoup plus difficile. Mm-hmm. Philip Fate croit au potentiel, ça c'est assez bizarre, au potentiel de l'activité physique pour aider les jeunes et les moins jeunes victimes à remonter la pente à la suite d'une commotion cérébrale. Et ce qui est peu banal là-dedans, c'est que historiquement, le traitement, c'était de rien faire. Mm-hmm. Le traitement, c'était de se reposer. Alors, quand il a commencé à explorer la possibilité de faire suivre ou commotionner un programme d'exercice, on riait un peu de lui. Les résultats ont pourtant été au rendez-vous au sein d'un groupe de 15 jeunes sportifs à qui on a prescrit un entraînement aérobie de faible intensité. La gravité des symptômes de la commotion cérébrale a diminué après une quarantaine de jours, pouvait-on lire dans les pages du British Journal of Sports Medicine en 2017. Alors, ces deux exemples de recherche qui nous font mieux connaître le phénomène de la commotion cérébrale, donc comment la commotion arrive, mm-hmm. et deuxièmement, comment on peut la traiter.
Mm-hmm.
C'était dans une revue extrêmement intéressante qui s'appelle Québec Science.
Si je peux me permettre, on dit aussi que les jeunes femmes, les filles qui jouent au soccer, ont plus de commotion cérébrale parce qu'elles ont moins de force dans le cou.
Ah oui, oui,
oui.
OK.
Oui.
Merci beaucoup, Yvan.
Oui.
Est-ce qu'effectivement, il y a plus d'allergies alimentaires? C'est ma perception.
On le vit, hein? Oui. Si on organise une soirée, oui. C'est quelque chose. Mais là, je parle alimentaire surtout, mais il y a toutes sortes d'autres oui. allergies. Alors, en effet, c'est pas une illusion. Le tableau est complètement différent de ce qu'il était il y a 20 ans, alors que les allergies alimentaires étaient plutôt rares. Mm-hmm. Aujourd'hui, elles concernent la moitié de nos patients allergiques, nous dit Hans Otgen, dont le département d'allergologie de l'hôpital pour enfants de Boston reçoit 30 000 patients par an.
Aïe, aïe, aïe,
ça doit être un très gros département.
J'espère qu'il n'est pas tout seul.
Alors, aux États-Unis, les allergies alimentaires chez les enfants ont en effet augmenté de 50 % entre 1997 et 2011. Rien qu'en 2010, Et 2016, l'énergie aujourd'hui. L'allergie aux arachides a bondi de 21%. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter, c'est pas... Ah ben, en fait, s'inquiéter, oui, il faut s'inquiéter. Ce n'est pas seulement propre aux États-Unis, mais c'est en Europe, en Australie, même en Asie, où les cas commencent à se multiplier. Il semblerait qu'au Canada, c'est un peu plus difficile d'obtenir des chiffres, mais le nombre de personnes à qui on a prescrit des auto-injecteurs d'épinéphrine a cru de 64 % entre 2006 et 2015.
C'est énorme.
Alors, bon, comment expliquer l'explosion des cas? On dit que l'augmentation était trop rapide pour qu'on puisse imputer ça à des changements génétiques. L'explication, donc, est forcément liée à l'environnement. Les scientifiques nous parlent de trois grandes vagues d'arrivée d'allergies. Dès le début du 20e siècle, le rhume des foins est arrivé. Ces allergies saisonnières à divers pollens n'ont cessé de croître durant tout le siècle, touchant aujourd'hui de 20 à 30 des adultes. À la fin des années 1960, quelle est la nouvelle épidémie?
L'arachide?
Non, l'asthme.
L'asthme?
L'asthme a pris le relais, atteignant un pic entre les années 1995 et 2000. Cette épidémie serait due au moins en partie aux acariens. Quant aux allergies alimentaires, elles sont les dernières à avoir pris de l'essor, et ça à partir des années 1990. Chaque fois, ce sont les riches dans les pays industrialisés qui sont touchés en premier. Autrement dit, ceux qui ont accès à une meilleure hygiène, aux vaccins, aux antibiotiques et à un régime alimentaire occidental. Pour ces raisons, l'une des théories les plus solides pour comprendre la hausse des allergies, c'est la théorie de l'hygiène. Nous sommes exposés à moins de microbes, à un environnement trop propre.
Donc, on est aseptisés.
Il
faudrait être un peu plus sale.
Ah, ben, peut-être. Notre système immunitaire n'est pas aussi bien entraîné qu'avant et il se trompe en réagissant contre les allergies. Divers travaux récents démontrent que l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans l'intestin participent aussi à l'éducation du système immunitaire. Alors, le lien...
Non, c'est parce que j'ai lu quelque chose sur le microbiome, justement.
Oui, on en parle beaucoup du microbiome et de... Voilà. Alors, que l'ensemble des micro-organismes, donc, présents dans l'intestin participent aussi à l'éducation du système immunitaire. Le lien entre microbiote intestinal et allergie alimentaire est très clair chez les modèles animaux, mais les données s'accumulent pour prouver la même chose sur les humains. Par exemple, il y a une vaste étude suédoise, ça c'est fort intéressant, qui a été publiée en octobre 2018, qui a été menée auprès de d'un million d'enfants suivis pendant 13 ans. Ça a révélé que le fait de naître par césarienne augmentait de 18 % le risque d'allergie alimentaire. Chez ces nouveau-nés non exposés au microbiote vaginal de leur mère, ben le développement du système immunitaire était carrément altéré. D'autres facteurs comme la pollution, le déficit en vitamine D, alors tout le monde à la pharmacie, allez vous acheter de la vitamine D, l'exposition aux pesticides, bien sûr, pourraient contribuer à ce dérèglement humanitaire qui semble se généraliser. Et si la tendance se maintient, comme nous dirait M. Bernard de Rome, 50 % de la population mondiale pourrait présenter une allergie respiratoire, alimentaire ou autre d'ici 2050. Et ça, selon l'Organisation mondiale de la santé. Je vous dirai tout à l'heure en petite brève d'autres petites recherches et avancées qui parfois nous saisissent. Alors, c'était un article de Marine Cornu pour la revue Québec Science, cette fois-ci de janvier-février 2019, et le titre était « Une épidémie planétaire ».
Merci, Monique.
Très bonne revue.
Ouais.
Puisque rien n'est grave, puisque tout va bien, puisque la pluie lave même nos chagrins, puisque nos douleurs s'en fait des moufles, puisqu'on aimera jusqu'au dernier souffle. Même pas peur, même pas peur, même pas peur, Qu'on a l'ivresse, l'amour, la beauté, l'éternelle jeunesse, la félicité, même pas peur.
Même pas peur, par Clarica.
Merci, Maurice. Alors, on est toujours dans le monde de la recherche et cette fois, on s'intéresse à une recherche qui s'intéresse elle-même à l'association entre habileté motrice, c'est tatale, et les fonctions cognitives, donc la recherche est tatale aussi. Moi aussi, je joue dans vos tales. C'est Nathalie Couson qui a écrit ce texte-là qu'on trouve sur le site Rire. Et c'est tout récent, là, c'est le 22 janvier. Une mauvaise motricité, une faible capacité aérobique et une situation de surpoids ou d'obésité peuvent nuire au développement cérébral et cognitif des enfants. Ça a été démontré scientifiquement, même si on a peu analysé cette question dans le cadre d'études longitudinales sur des périodes prolongées. Par ailleurs, une nouvelle étude menée à l'Université de la Finlande orientale sur le sujet a été publiée récemment dans Medicine and Science In Sports and Exercise. Elle montre, entre autres, que les garçons, ayant une bonne motricité, sont à même de mieux résoudre les problèmes que leurs pairs, moins habiles sur le plan moteur. L'objectif de la recherche était d'étudier les associations longitudinales entre conditions cardio-respiratoires, la motricité, le pourcentage de graisse corporelle et la cognition des enfants. Au total, 371 enfants, 188 garçons et 183 filles âgées de 6 à 9 ans au début de l'étude ont participé à cette étude de suivi d'une durée de 2 ans. Leurs habiletés motrices ont été évaluées par des tests d'agilité, d'équilibre et de dextérité manuelle. Leur aptitude aérobique, on parle ici d'effort d'endurance, par un test d'ergomètre à cycle maximal. Qu'est-ce qu'un ergomètre? C'est une machine d'exercice physique qui consiste à faire reproduire à l'utilisateur un mouvement qu'il ferait se déplacer s'il n'était pas sur la machine. Ça peut prendre différentes formes. Un tapis roulant, par exemple, qui reproduit la marche ou la course à pied. Et donc, on termine le pourcentage de graisse corporelle avec un appareil DXA. Donc, c'est un appareil spécialisé pour mesurer la graisse corporelle. Quant à la cognition, elle a été évaluée, elle, par le test des matrices de Raven. Plusieurs facteurs qui pouvaient influencer les résultats, tels que l'éducation parentale et le revenu annuel familial, ont aussi été contrôlés dans les analyses. Les résultats basés sur les données de suivi de l'étude PANIC pour Physical Activity and Nutrition in Children, c'est toujours un défi pour moi. Ouhou! Activité physique et nutrition chez les enfants, c'est ce que ça voulait dire en français, montre que les garçons ayant une meilleure motricité au début de l'étude avaient également une performance cognitive supérieure sur une période de 2 ans par rapport aux autres garçons. Les mêmes associations n'ont pas été observées chez les filles. Mm-hmm. Cette absence de similitude peut être due aux différences biologiques ou socioculturelles entre les garçons et les filles. Étonnamment, les enfants ayant une faible capacité aérobique ou un pourcentage élevé de graisse corporelle avaient des performances cognitives comparables à celles de leur père, présentant une bonne condition physique et un faible pourcentage de graisse corporelle. Monsieur ou madame, monsieur, c'est un chercheur, Eero Haapala, qui est chercheur postdoctorant à l'université en Finlande et professeur auxiliaire de physiologie de l'exercice pédiatrique à l'université de Finlande orientale, mentionne qu'il est important de se rappeler que ces résultats ne reflètent pas nécessairement une relation de cause à effet entre les capacités motrices et la cognition. Les garçons ayant une compétence motrice et cognitive plus faible au départ ont d'ailleurs rattrapé leur père plus habile au cours des 2 années de suivi. Concernant la performance cognitive, elle s'avère bien entendu importante pour l'apprentissage et la réussite scolaire. Les résultats de l'étude montrent que la motricité serait plus fortement associée à la performance cognitive que la capacité aérobie ou le pourcentage de graisse corporelle chez les garçons. Par contre, ces résultats ne reflètent pas nécessairement la relation de cause à effet entre capacité motrice et cognition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils peuvent tout au plus suggérer que le fait d'être physiquement actif de différentes manières au cours de la petite enfance, ça peut améliorer non seulement les capacités motrices, mais également les performances cognitives. Alors, ça confirme ce que tu nous dis chaque semaine, Yvan, n'est-ce mm-hmm. pas?
Voilà. Et que je vous dirai tantôt dans la deuxième partie.
Alors, j'en remercie Nathalie Couzon. Sur le site RIRE, c'est le réseau d'informations sur la réussite éducative. Yvan, alors, parle de la magie de l'hiver.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, alors, ça nous encourage.
Il faut s'imaginer qu'on a un bel hiver.
Oui.
Bon, aujourd'hui, ça ne marche pas, là, mais imaginons. La magie de l'hiver est un jeu d'enfants, selon Maude Goyer dans la presse du 21 janvier. Avant d'avoir des enfants, Geneviève et nos 32 ans n'aimaient pas l'hiver. Elle le boudait. Dans un pays où l'hiver occupe beaucoup plus que les 3 mois officiels, ceux du 21 décembre au 20 mars, ne pas l'aimer peut être un sérieux handicap. Je restais encabané au lieu de profiter de l'hiver. La mère de Charles et de Léa Rose, 6 ans et 8 ans, ne faisait rien du tout. Aucune activité extérieure. Elle déprimait à la maison. Même chose pour Noémie Gervais, 38 ans, mère de 4 enfants âgés de 2 à 11 ans. Jaillissait l'hiver.
Jaillissait.
OK, s'exclame-t-elle. Je n'aimais pas le froid, le gris, la glace et la flotte. Tout ce qu'on a ce matin d'ailleurs. Je ne trouvais pas ça beau. Soucieuse de ne pas transmettre cette aversion à ses enfants, cette mère de famille qui habite à Val-David a changé sa perception des choses. « Je me suis convaincue moi-même, avoue-t-elle, je ne voulais pas léguer ça aux enfants. » Pour elle, la première neige avec les enfants est devenue magique. Puis, ils aiment quand elle est collante pour faire des bonhommes de neige et des forts, quand elle est dure pour aller glisser, quand elle est craquante. Elle avoue en riant, « Ça a changé ma vie. » Mais comment opérer le virage?
Ben oui, c'est ça la question.
Comment se faire à l'idée de sortir et de bouger pendant l'hiver? D'abord, s'habiller chaudement. Pensez aux extrémités. Une bonne tuque, des mitaines chaudes, des bottes de qualité. Et on applique la technique des pelures d'oignon. Il me semble que ça fait plusieurs fois que je répète mm-hmm. ça. En superposant plusieurs couches de vêtements. À ne pas oublier, un enfant qui a froid lors d'une activité voudra arrêter rapidement et il va s'en souvenir mm-hmm. pour la prochaine fois. Puis, y aller progressivement. Ça n'a pas besoin d'être loin ni compliqué. On doit faire des courses à l'épicerie. Tout le monde s'habille et on en profite pour aller glisser dans le quartier. Selon Bruno Durand, qui est kinésiologue, c'est le plaisir qui est le premier critère à se rappeler. Puis ça passe aussi beaucoup par les amis. Les enfants aiment jouer dehors avec des amis, par exemple les amis du quartier, et profiter de la neige. En plus de viser la simplicité et la spontanéité, vaut mieux tester différentes activités gratuites avant d'engager des coûts dans des sports dispendieux. Marcher en forêt, aller patiner dans le quartier ou organiser une bataille de boules de neige, c'est tous des activités gratuites. Geneviève consulte l'horaire des activités de sa municipalité et des villes avoisinantes et y fait de jolies trouvailles gratuites encore. Nous irons faire de la raquette au flambeau samedi soir, raconte-t-elle, et c'est suivi d'un chocolat chaud. Mmh. L'effet de la petite récompense n'est pas à négliger avec des enfants récalcitrants. Qu'il s'agisse d'un feu de foyer au retour à la maison, d'un bol de pop-corn servi sous la doudou ou d'un verre de vin rouge pour les parents. Alors, quelques idées de choses qu'on peut faire à l'extérieur. Découvrez les traces laissées dans la neige par les animaux en allant vous balader à pied, en raquette ou en ski de fond dans un bois. Ici, un écureuil, là, un lièvre et plus loin, une dinde sauvage. Là, je suis juste curieux de savoir c'est quoi la trace dans la neige d'une dinde sauvage. Vous pouvez faire aussi de la peinture sur neige. On sort de vieux feutres ou du colorant alimentaire qu'on dilue dans une bouteille à vaporiser et on laisse les enfants s'amuser à créer des tableaux artistiques. On peut créer des châteaux de neige avec le matériel du carré de sable ou pour la plage, les moules, les pelles, etc. On peut aussi cuisiner. On sort des plats de plastique, des casseroles, des ustensiles. Alors, toutes sortes d'activités faciles pour commencer à aimer l'hiver, parce qu'avec des enfants, c'est magique.
Dans la joie, surtout pour quelqu'un qui habite à Val-David, c'est le village du Père Noël.
C'est un peu plus facile. C'est écrit dans le journal, ça doit être vrai.
Ça doit être vrai. On va te croire. Alors, revenez-nous, chers auditeurs, après la pause. On sera là, nous, mm-hmm. avec plaisir. Bonjour, bonjour. Re-bienvenue à l'émission Les Voix de service du 24 janvier 2019. C'est notre deuxième partie. Oui. Yvan, Monique, de quoi nous parlerez-vous?
Moi, de mon côté, c'est l'histoire d'une kayakiste qui a gagné des médailles aux Jeux olympiques et qui s'est recyclée, si on veut, pour offrir un programme qui va faire le lien entre des jeunes défavorisés et le sport.
Intéressant. Et Monique?
Alors, que fait notre cerveau lorsque l'on dort? Je vais vous décrire heure par heure ce qui se passe.
Mon Dieu!
Ben, heure par heure.
C'est documenté, c'est ça.
Et finalement, un article qui met en vedette une lauréate récente du prix Nobel de physique et son plaidoyer en faveur de la recherche fondamentale.
Mmh. Et moi, je vous lis un mot d'une maman d'enfants dyslexiques. 8 choses qu'elle tient à vous dire. Voilà.
Oh là là!
Monique, on va aller voir ce que notre cerveau fait pendant que nous dormons.
Oui, exactement. C'est un article de Marie-Catherine Méra pour la revue Science et Vie de janvier-février 2019. Alors, le sommeil n'est pas qu'un temps de récupération. Son corps et conscience sont au repos, en effet, mm-hmm. mais à l'intérieur du cerveau, paraît-il que c'est l'effervescence. On réorganise, on trie, on stocke, on nettoie et on régule. Mm-hmm. À 23 heures, nous sombrons dans le sommeil. Alors, sur un électroencéphalogramme, un EEG, je le répéterai dans l'article, mm-hmm. on voit les ondes cérébrales qui ralentissent, s'amplifient et le cerveau se met à battre. Dans le cortex, des populations entières de neurones se synchronisent, alternant phases de silence et de décharge électrique. D'où le nom donné à cette partie de nos nuits, le sommeil à onde lente, qui est lui-même divisé en trois stades, 1, 2 et 3, 4, donc du plus léger au plus profond. Vers 23h15, donc 15 minutes plus tard que notre heure de sommeil, au stade 2, surviennent des trains d'ondes à haute fréquence, les fuseaux du sommeil. Ils serviraient à isoler le cortex des stimulations extérieures pour qu'il rappelle et enregistre les informations depuis notre hippocampe. C'est un procédé crucial pour la mémorisation. Voilà pourquoi nous passons autant de temps en sommeil lent, léger. 50% du temps est un sommeil léger. Autour de minuit, nous atteignons le dernier stade du sommeil lent, où il est très difficile de nous réveiller. On est coupé du monde, nous gravons nos souvenirs, des ondes lentes se propagent de l'hippocampe vers le cortex préfrontal, qui est là le lieu de stockage de la mémoire à long terme. Donc, les événements vécus pendant la journée seraient rejoués pour mieux être intégrés. Grâce à des ondes lentes, le cerveau récupère de la fatigue accumulée et l'hypophyse sécrète l'hormone de croissance. Ses rôles sont nombreux, même chez l'adulte. Elle répare les tissus et elle stimule, entre autres, le système immunitaire. Au bout de 1h30 de sommeil environ, alors place à une intense agitation interne. On voit le tracé de l'EEG qui correspond à celui d'une personne éveillée. Alors, sur le plan musculaire, nous sommes complètement paralysés, sauf les yeux, qui sont animés de mouvements rapides derrière nos paupières. On a de vives sensations qui sont générées à l'intérieur de notre cerveau. Elles impliquent l'amygdale et non pas celle qu'on a dans la gorge, qui intervient dans le traitement des émotions cette fois-ci. Nous sommes en phase de sommeil paradoxal. Et qu'est-ce qu'on fait pendant le sommeil paradoxal?
On rêve.
On rêve, voilà. Les connexions neuronales sont alors réanimées. Vers 0:40, vers minuit 45, le premier cycle est complet. On a un très bref réveil, mais on n'en garde pas le souvenir. Au total, il y a 4 à 5 cycles de sommeil qui se succéderont tout au long de la nuit, marqués par un allongement progressif de la durée du sommeil paradoxal, donc de la production des rêves, qui peut atteindre en fin de nuit 30 à 40 minutes. À 2 heures, un grand remue-ménage se produit. C'est le service de nettoyage qui est effectué par le liquide céphalo-rachidien qui baigne le cerveau. Les toxines sont envoyées par le sang vers le foie qui les détruira. Vers 5 heures, notre sommeil est plus fragile avec une alternance de phases de sommeil léger paradoxal. Notre corps se prépare tout doucement à l'éveil. Après 8 heures de sommeil, nous devrions nous réveiller en fait avec la sensation d'avoir rechargé nos batteries. Nos muscles sont reposés, nos réserves énergétiques reconstituées, notre cerveau débarrassé des toxines qui l'encombraient. Et nous sommes donc prêts à recommencer une autre belle journée. Et voilà.
C'est fascinant.
C'est fascinant. Ouais. Alors, c'était « Que fait notre cerveau pendant qu'on dort ?» un article de Marie-Catherine Méra pour la revue Science et Vie de janvier-février 2019.
Merci. Alors, je vous lis un texte de Mélina Patry, qui a été publié sur le site lexibar.ca. Le site lexibar.ca. En fait, Lexibar, c'est un site d'abord. C'est aussi un logiciel spécialisé pour les personnes qui ont des difficultés à lire et à écrire. Donc, on parle de gens qui sont dyslexiques particulièrement. Pardon. Et le titre, c'est « 8 choses que je veux vous dire à propos de mon enfant dyslexique ». Parfois, j'ai peur que vous me jugiez comme parent. Encore pire, j'ai peur que vous jugiez mon enfant. Voici ce que j'aimerais vous dire au sujet de mon enfant dyslexique. 1. Il n'est pas malade. La dyslexie n'est pas une maladie ni la conséquence d'une blessure ou d'une malformation. Il est impossible de la traiter avec des médicaments. La dyslexie est une différence dans l'organisation de son cerveau qui rend la reconnaissance de symboles, comme les lettres, très difficile. Pour lui, apprendre à lire et à écrire est une tâche monumentale. Il sera dyslexique toute sa vie. Avec beaucoup de travail et d'aide spécialisée, il pourra développer des méthodes, apprendre à utiliser des outils qui lui permettront de poursuivre ses études et de faire le métier qu'il veut quand il sera grand. Deuxièmement, il est intelligent. Mon enfant a plusieurs forces et capacités intellectuelles. Il a des difficultés en lecture et en écriture. Son cerveau peine à décrypter les symboles qui forment les sons dans les mots. Mais tous les enfants sont différents et ont des forces et des faiblesses. Troisièmement, il ne deviendra pas meilleur en lisant plus. Mon enfant a toujours eu accès à plusieurs livres. Je prends le temps de lui lire des histoires depuis qu'il est haut comme trois pommes. Malgré que ces moments passés avec lui soient des plus bénéfiques, ils ne l'aideront pas à devenir meilleur en lecture et en écriture. Forcer mon enfant à lire davantage pour qu'il devienne meilleur ne ferait qu'engendrer frustration, anxiété, faible estime de lui et problèmes de comportement. Ensuite, il n'est pas paresseux. Son cerveau doit décoder tout ce qu'il lit pour pouvoir le comprendre. Il doit travailler très fort et n'arrive pas à suivre le rythme de ses camarades de classe. On pourrait avoir tendance à insister pour qu'il continue, persévère et termine son travail pendant la récréation, au lieu d'aller jouer. Mais la tâche est profondément épuisante pour lui et il a désespérément besoin d'un temps de pause. Mm-hmm. Ensuite, il a besoin de mesures adaptatives pour réussir. Avec l'aide nécessaire, il peut réussir tout ce qu'il entreprend. Comme l'enfant qui a besoin de lunettes pour corriger sa myopie et voir au tableau, il a besoin d'un logiciel spécialisé pour lire et écrire, de plus de temps pour terminer ses examens, de tutorat, de caractères plus gros et de textes bien organisés, sans éléments dérangeants, et il a aussi besoin de prendre des pauses fréquentes. Et ce n'est pas de la triche, tout ça. Ce sont des mesures d'adaptation. Ensuite, il se sent stupide et moins bon que les autres. Il sait bien que ses camarades de classe sont beaucoup plus avancés que lui en lecture et en écriture, qu'ils finissent leurs travaux à temps et apprennent plus vite. Son estime de lui en est profondément ébranlée, et sans le soutien nécessaire, il pourrait vite décrocher et ne plus vouloir aller à l'école. Ses forces doivent être reconnues et nommées dans la classe et auprès de ses camarades. Ensuite, il ne devrait pas être étiqueté. Il est un enfant comme les autres, il est dyslexique et tous les enfants dyslexiques sont différents, ils ne sont pas tous pareils. Mm-hmm. Mon enfant a sa propre personnalité, il mérite d'être connu et reconnu pour ce qu'il est. Il est tellement plus que sa dyslexie. Ses forces, et c'est la huitième chose, ses forces lui ouvriront des portes parce que les personnes dyslexiques sont extrêmement créatives et qu'elles ont une pensée visuelle particulièrement développée. Elles sont souvent celles qui voient les solutions que les autres ne voient pas. Pour avoir vécu la différence, les moqueries et une faible estime d'eux-mêmes, les personnes dyslexiques sont des personnes empathiques, ouvertes d'esprit et compréhensives. Parce qu'elles ont dû travailler 10 fois plus pour arriver au même résultat que les autres, elles sont persévérantes, travaillantes et savent se relever. Dans une société qui se veut de plus en plus inclusive et diversifiée intellectuellement, il est primordial que les différences comme la dyslexie soient comprises et vues comme des différences et non réduites à des déficiences ou des handicaps. Alors, c'est un cri du cœur. Mm-hmm. Vraiment, mm-hmm. Un texte de Mélina Patrick, qui est la maman d'un enfant dyslexique, mm-hmm. qu'on peut retrouver sur le site lexibar.ca, LEXIBAR. Et c'est tout récent, ça date du début janvier. Merci.
As-tu 2 secondes, non? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer? As-tu 2 secondes, non? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer? As-tu 2 secondes, non? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer? As-tu 2 secondes dans ton agenda? Un peu de temps sur le bras, je suis dans tous mes états. Faudra bien que je te dise à quoi ça ressemble une crise, mais elle n'est pas finie, puis dans ce temps-là je parle pas. Puis j'écoute pas personne, ça sert à rien que tu me donnes tout ton temps pour l'instant. Je te le demande comme ça. As-tu 2 secondes, non? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer? As-tu 2 secondes, non? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer? As-tu 2 secondes, non? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer? As-tu 2 secondes, non? As-tu 2 minutes? As-tu 2 minutes à me consacrer?
Écoute. seconde, je suis dans des beaux draps. Je peux te tordre un bras pour me savoir au corps. Où je ferai mes valises pour aller prendre la brise. Y'a pas d'air ici, y'en a toujours là-bas. Où je connais pas personne, où y'aura pas d'automne. Faut pas qu'on m'emprisonne. J'aurai pas de téléphone. Je t'appellerai plus tout le temps pour te demander ça.
As-tu deux secondes, non? As-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer? As-tu deux secondes, non? As-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer? As-tu deux secondes, non? As-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer? As-tu deux secondes, non? As-tu deux minutes? As-tu deux minutes à me consacrer?
Veux-tu m'écouter? C'est... Même si j'ai pas les bons mots. Sortir en même temps.
As-tu deux minutes par Steffi Choc?
Oui, et puis c'est une version vraiment intéressante que Steffi Choc nous propose. C'est un texte de Michel Tremblay, hein? Saviez-vous ça?
Oui,
pas cette pièce-là. C'est une adaptation. Il a échantillonné le As-tu deux minutes?
Oui.
Sinon, mais il parle d'anxiété là, pour cette pièce-là.
Oui, c'est ça. Ah, oui.
Il a adapté le texte.
Merci pour la précision, Maurice. Alors, on s'en va voir une kayakiste, Yvan.
Oui. Et Marie, tu as parlé du lien, d'une recherche entre les capacités
motrices
et intellectuelles. Écoute bien cette lecture. Mm-hmm. Le sport devrait être universel, c'est sous la plume de Simon Drouin dans la presse du 24 décembre 2018. Pour une championne de son envergure, Caroline Brunet sait se faire discrète. Puis là, je regarde vos visages. Puis, je pense qu'elle a réussi. À la retraite depuis les Jeux d'Athènes, où elle a gagné une troisième médaille olympique en 2004, l'ex-kayakiste a pratiquement disparu de l'écran radar médiatique. Après le sport, Brunet est retournée sur les bancs d'école et elle a obtenu son diplôme en kinésiologie de l'UQAM en 2012. Son projet Devenir est une initiative personnelle visant à faire découvrir, le sport au plus grand nombre de jeunes possible, comme elle, à l'âge de 12 ans, à Lac-Beauport. Le club local de canoë-kayak avait fermé, mais un entraîneur de passage, Denis Barré, a senti une étincelle et l'a prise sous son aile. Elle nous dit que c'est une classe de privilégiés qui font du sport, mais elle a toujours pensé que le sport devrait être universel. Ça devrait être offert gratuitement, comme aller chez le dentiste. La chance a fait que j'ai pu faire du sport, mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être seulement relié à la chance. L'idée de devenir a germé à la fin de son bac. Avec l'aide de deux professeurs, elle a conçu un programme d'évaluation des qualités physiologiques. Munie d'un tel profil individuel, elle pourrait ensuite guider les participants vers un sport qui leur conviendrait. Son public cible, les jeunes de milieux socio-économiques défavorisés que le sport attire, mais qui n'ont jamais véritablement eu l'occasion de s'y initier. Au printemps dernier, après un premier essai plus ou moins satisfaisant, la détentrice de 10 titres mondiaux s'est donc tournée vers des jeunes de première et deuxième secondaire de l'école Jeanne Mance. Cette fois-là, 27 élèves se sont inscrits, 8 filles, 19 garçons. Pendant 5 semaines, à raison de 2 séances hebdomadaires, ils se sont soumis à des évaluations supervisées par 2 kinésiologues prêtés par le centre Père Sablon, voisin de l'école. ces jeunes, puis une intervenante psychosociale nous dit, ces jeunes vivent souvent beaucoup d'échecs sur le plan scolaire. C'est très facile de se dévaloriser, surtout à l'adolescence. Le projet de Caroline leur permet de réaliser qu'on peut être bon dans quelque chose. La pratique d'un sport, ajoute l'intervenante, a également des effets bénéfiques sur la gestion de l'anxiété, la concentration à l'école et le sommeil. Selon leur profil physiologique et leurs préférences, 17 élèves de l'école Jeanne-Mance ont trouvé une place dans un club ou une équipe. Les disciplines sont multiples. Soccer, volleyball, basketball, boxe, athlétisme, badminton. L'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dont Brunet a directement sollicité le maire Luc Ferrandez, paiera l'inscription pendant 2 ans. Ceux qui ne restent pas sur le territoire n'auront pas à payer non plus grâce à un homme d'affaires qui a accepté de couvrir toutes les autres dépenses connexes. Il faut que ce soit viable, précise l'ex-kayakiste. Il faut qu'ils puissent se rendre à leur sport à pied, en autobus ou en métro. Caroline Brunet suit elle-même les progrès de ces jeunes, dont elle parle avec une affection évidente. S'il le faut, elle se déplace pour aller remettre une carte au puce. Je pense vraiment que les jeunes transforment leur vie en ayant des objectifs et en ayant un vrai beau moment de joie dans leur club. L'objectif, ce n'est pas la performance sportive, c'est bien plus d'améliorer leur qualité de vie. On carbure à leur force, on leur dit qu'ils sont bons dans quelque chose. Elle aimerait implanter Devenir dans d'autres écoles et pourquoi pas dans toute la province. Pour un tel projet, ça vaut bien la peine de sortir de sa réserve habituelle.
C'est formidable.
Donc, c'était un article qui s'intitule « Le sport devrait être universel » de Simon Drouin dans la presse du 24 décembre qui raconte le projet de Caroline Brunet.
Merci, Yvan. Alors, Monique, on s'en va consulter l'opinion d'une
grande chercheuse.
D'une grande chercheuse,
oui. Oui, c'est ça. Alors, l'article est écrit par elle. Elle se nomme Donna Strickland. Elle est professeure au département de physique et d'astronomie de l'Université de Waterloo. C'était publié dans sur un site web qui est en fait un agrégateur d'articles scientifiques qui sont publiés par l'ensemble des universités canadiennes. Ça s'appelle La Conversation. Et vous pouvez aller sur ce site. Il y a la conversation en France, il y a la conversation en Grande-Bretagne aussi. Okay. C'est fort intéressant. Alors, depuis qu'on a annoncé l'obtention du prix Nobel de physique par Donna Strickland pour l'amplification à dérive de fréquence, ou le CPA, retenez simplement ça, on parle ici de laser. C'est ce qu'il faut retenir. On s'est beaucoup intéressé à ces applications pratiques. Alors, il est tout à fait normal que les gens veuillent savoir comment ça les affecte, ces grandes découvertes. Mais comme scientifique, il est normal que les chercheurs souhaiteraient que la société s'intéresse également à la science fondamentale, alors à toutes les étapes qui ont précédé. Parce qu'on ne peut pas profiter des applications sans la recherche préalable basée sur la curiosité. Alors, on souhaitait à tout le monde, en début d'année, curiosité. Ça fait partie aussi du contexte de vie des chercheurs. En apprendre davantage à propos de la science est au service de la science, mérite d'être soutenue. Alors, elle n'était pas seule à obtenir le prix Nobel. Il y avait aussi Gérard Mourou, avec qui elle a travaillé. Ils ont développé donc la CPA au milieu des années 1980.
Ça fait longtemps.
Oui, tout a commencé lorsque M. Mourou s'est demandé s'il pouvait augmenter l'intensité du laser. Alors, il avait une question et c'était par ordre de grandeur ou par facteur de 1000. L'objectif, c'était de révolutionner le domaine de la physique des lasers à haute intensité, un secteur scientifique fondamental. On voulait que le laser nous montre comment la lumière à haute intensité change la matière et comment la matière affecte la lumière lors de cette interaction. Vous allez mieux comprendre lorsque je vais donner les exemples. Il a fallu 1 an pour fabriquer le laser. Ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient augmenter l'intensité du laser par ordre de grandeur et non pas multiplié par 1000. En fait, la CPA a donné lieu aux impulsions laser les plus intenses jamais enregistrées. C'est environ une décennie avant que les applications pratiques connues aujourd'hui commencent à se profiler. commence à se profiler. Mm-hmm. En raison de la rapidité des impulsions à haute intensité, le laser n'endommage que les zones où il était appliqué. Alors, mais c'est des zones très précises. Un chirurgien peut utiliser la CPA pour trancher la cornée d'un patient durant une chirurgie de l'œil au laser. Cela peut couper proprement les pièces de verre dans nos téléphones cellulaires. Ces particules accélérées aideront probablement un jour les chirurgiens à l'ablation de tumeurs au cerveau qu'ils ne peuvent réussir aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que c'est tellement rapide, précis, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a donc un décalage de plusieurs années ou même de décennies entre les applications pratiques et les découvertes initiales.
Oui, beaucoup de temps.
Oui, alors Albert Einstein a créé des équations pour le laser en 1917, mais ce n'est qu'en 1960 que Theodor Meyman a fait la première démonstration du laser. Isidore Rabi a mesuré la résonance magnétique nucléaire la première fois en 1938. Mmh. Il a reçu le prix Nobel en 1900 de physique, toujours en 1944, pour sa recherche, qui a mené à l'invention de l'imagerie par résonance magnétique, qu'on connaît tous aujourd'hui, l'IRM. Le premier examen par IRM sur un patient a eu lieu en 1977, donc 33 ans plus tard.
Ouais, pourquoi tout ce temps, en fait?
Ben, c'est parce qu'il faut prouver que l'application va être efficace sur les patients. Donc, le terme fondamental peut être un peu répulsif, mais c'est fondamental.
C'est
essentiel. Mmh. Et il ne faut pas penser que parce qu'on a l'impression de ne pas être touché par une recherche, qu'elle ne sera pas utile et pratique un jour.
Ouais.
Donc, il faut faire en sorte que les gouvernements appuient les recherches fondamentales parce que ça coûte très cher, étant donné que c'est du sur long terme. Alors, c'était donc un texte de Mme Donna Strickland qui s'appelait « Réflexion d'une lauréate du Nobel. Les scientifiques ont besoin de temps pour faire des découvertes », daté du 14 janvier et qui était publié sur le site web La Conversation.
Merci, Monique. Monique, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait quelques brèves en lien avec les allergies.
Oui, entre autres, la question suivante, peut-on prévenir les allergies?
Bonne question.
Ah, alors, les experts ont longtemps recommandé d'éviter de donner au bébé les aliments les plus allergènes. Alors, les parents devaient ainsi se retenir de donner du lait de vache avant l'âge d'un an et des arachides ou des fruits de mer avant l'âge de 2 ou 3 ans. Bien, en réalité, il faut faire tout le contraire, semble-t-il, selon les dernières études. C'est comme la margarine puis le beurre, en fait. Cette étude effectuée...
Ou même le contraire.
Oui, auprès de 640 bébés, a montré que le fait d'induire des arachides dans l'alimentation entre 4 et 11 mois diminuait de 80 % le risque d'y être allergique. En 2017, une étude à laquelle 2100 enfants canadiens ont participé révélait à son tour que les enfants qui n'avaient pas consommé de produits laitiers au cours de leur première année de vie couraient 4 fois plus de risques que les autres d'être allergiques au lait. Voilà. Donc, allons-y.
Introduisons.
Introduisons, mais à petite dose.
Petit peu à la fois.
Voilà.
Ben voilà. Yvan, toi, est-ce que tu as une brève de son côté?
Oui, une suggestion pour bouger, tiens. Mais pas dehors. Ça s'appelle Bouge, bouge. C'est 5 km du Montréal souterrain. Ça va avoir lieu le 3 février. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est une course à travers le Montréal souterrain. Ça part des cours Mont-Royal jusqu'au complexe Desjardins. On est en short, sans mettre le nez dehors, en courant pas trop vite. On peut même faire du lèche-vitrine en passant. Le nombre de coureurs est limité. Vous pouvez aller sur le site pour vous inscrire.
Et comment ça s'appelle? Puis-tu rappeler le nom?
Ça s'appelle Bouge Bouge, 5 km.
Ah, intéressant. Une autre brève sur les allergies.
Toujours pour prévenir les allergies. Alors, on va mettre une étude sur pied pour prouver en fait, les parents qui badigeonnent leur bébé de crème hydratante. Alors vraiment, le bébé au complet. C'est une pratique, en fait, qui se fait beaucoup en Afrique.
Oui.
J'ai appris ça. Parce que l'eczéma sévère est associé à un risque accru d'allergie alimentaire. Alors, c'est ce qu'on appelle la marche atopique. Environ 35 % des enfants ayant de l'eczéma ont aussi des allergies alimentaires et 75 % d'entre eux finissent par souffrir d'asthme ou de rhinite allergique. Alors, parce que comme ils ont un peu d'eczéma, la peau devient poreuse et donc ouverte pour recevoir toutes sortes affaiblir en fait le système immunitaire. Ça. Alors, en badigeonnant bien l'enfant de crème hydratante...
On le protège.
On le protège.
Eh bien, on n'arrête pas le progrès. Une dernière, Yvan.
Oui, le chiffre de la semaine, 2 minutes 17 secondes.
2 minutes 17 secondes, pourquoi? Ouais.
C'est le nombre de minutes de clarté qu'on gagne chaque jour à Montréal à cette période de l'année.
Je ne t'attendais pas à une réaction aussi joyeuse.
Je suis émue.
Alors, un petit mot d'enfant avant de partir. L'agent secret, selon Louis, 8 ans, le meilleur pour lui, c'est Jess Bombe. Parce qu'à la fin, il fait toujours exploser la base des méchants. Jess Bombe, au lieu de James Bond.
Oh là là!
Bon, elle était tirée, celle-là. Voulez-vous une autre?
Oui.
Babysitter, c'est l'ado qui doit être responsable comme un adulte pour nous garder, pour que nos adultes de parents puissent sortir et se comporter comme des adolescents.
Ça, c'est bon.
Voilà. À la semaine prochaine, chers auditeurs.